إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous arrivons donc aujourd'hui à la fin de cet épître et au dernier passage exposé par l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et ce passage, il concerne les obligations de la prière. Comme on l'a vu dans des cours précédents, la différence entre les piliers et les obligations, c'est que celui qui oublie un pilier, sa prière ne peut être valide si ce n'est en accomplissant ce pilier. Tandis que celui qui oublie une obligation, cet oubli est compensé par les deux prosternations de l'oubli accomplies à la fin de la prière. Les piliers sont donc plus impératifs que les obligations. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit ici « وَالْوَاجِبَاتُ ثَمَانِيَّةَ » et les obligations sont au nombre de 8. C'est-à-dire qu'il y a 8 obligations dans la prière. Puis il commence à les énumérer et dit, rahimahullah, « جَمِعُ التَّكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ » tous les takbirs en dehors du takbir de sacralisation. En effet, le takbir de sacralisation, qui est le premier de la prière, comme on l'a vu, c'est un des piliers de la prière. Et tous les autres, ils sont appelés takbirs de transition. Ce sont ceux que tu fais lorsque tu passes d'une position à une autre. Et ceux-ci, ce sont des obligations. Et ce, d'après la parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire le takbir à chaque fois qu'il se levait, s'abaissait, se mettait debout et s'asseyait. Et ce hadith, il est rapporté par les imams An-Nasa'i et At-Tirmidhi, et il est authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait donc ainsi sa prière. Et il a dit, comme on l'a vu dans le hadith, « Priez comme vous m'avez vu prier ». Il est donc obligatoire d'accomplir ce takbir de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « Wa qawl subhana rabbi al-azim fi al-ruku'. » Et le fait de dire « Subhana rabbi al-azim, pureté à mon Seigneur l'immense » dans l'inclinaison. Ceci est donc la deuxième obligation de la prière. Et combien de fois est-il obligatoire de prononcer cette formule? Le minimum obligatoire est de prononcer cette formule une fois lors de l'inclinaison. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le tasbih sans préciser un nombre de fois. Donc l'obligation est seulement de le prononcer une fois. Et le minimum de la perfection est de le prononcer 3 fois. Et le mieux est de le prononcer proportionnellement au temps que tu restes en station debout en récitation. 5 fois, 7 fois, 9 ou plus encore, comme cela est rapporté dans certains hadiths. Donc lorsque tu pries et que tu es en inclinaison, tu dois au moins dire une fois « Subhana Rabbi al-Azim ». Et comme on l'a vu dans un cours précédent, tu dois prononcer cette parole après t'être figé en inclinaison. C'est-à-dire une fois que tu es bien incliné, que tu es en position immobile en inclinaison. Il est obligatoire de prononcer une fois cette formule de tasbih. Et le mieux est de le faire au moins 3 fois, ou plus encore, 5, 7, 9, ou encore plus, proportionnellement, au temps que tu es resté debout pour réciter. Cependant, si tu es imam, que tu diriges la prière à d'autres personnes, tu dois faire en sorte qu'il n'y ait pas de gêne au fait de prolonger ces stations trop longtemps. Et il est permis de rajouter à cette formule de dhikr, wa bihamdihi, subhana rabbi al-azim, wa bihamdihi. Et à lui la louange, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres invocations comme Subbuhun Quddusun, Rabbul Malaikati Warruh, et d'autres invocations que vous pouvez trouver dans le livre La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ensuite, il dit rahimahullah, Wa qawl sami'a Allahu liman hamidah, lil imam. Le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida, Allah entend celui qui le loue, c'est-à-dire Allah exauce celui qui le loue pour l'imam et celui qui prie seul. Donc vous voyez que le Cheikh rahimahullah ta'ala a précisé ici que cette phrase n'est prononcée que par l'imam et celui qui prie seul. C'est-à-dire qu'il considère que celui qui prie derrière l'imam ne doit pas le dire, mais il dit seulement Rabbana wa lakal hamd. Et ceci est une question sur laquelle les gens de science ont divergé. Nombre de gens de science ont soutenu cet avis exposé ici par l'auteur rahimahullah ta'ala. Ils se sont basés pour cela sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith: lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Il a donc ordonné à ceux qui prient derrière l'imam de dire Rabbana wa lakal hamd lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamida. Cependant, d'autres savants, et à leur tête l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ont soutenu que la parole Sami'a Allahu liman hamida est aussi bien prononcée par l'imam que celui qui prie derrière lui. Ils se sont basés pour cela sur la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il disait « Sami'a Allahu liman hamida » et il a ordonné de prier de la même manière qu'il priait. Et ils ont dit concernant le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire « Rabbana wa lakal hamd » lorsque l'imam dit « Sami'a Allahu liman hamida » que ceci ne veut pas dire que celui qui prie derrière l'imam ne doit pas dire « Sami'a Allahu liman hamida ». De la même manière que ceci ne veut pas dire que l'imam ne doit pas dire « Rabbana wa lakal hamd ». L'imam, il va dire aussi « Rabbana wa lakal hamd » comme celui qui prie derrière lui. Et je vous renvoie à ce sujet, à la parole de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dans son livre sur la description de la prière, que vous pouvez trouver à la page 123 de la traduction du livre en français. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « وقول ربنا ولك الحمد للكل » et la parole « ربنا ولك الحمد » ô notre Seigneur et à toi la louange pour tous, c'est-à-dire sans distinction entre l'imam, celui qui prie derrière lui ou celui qui prie seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait cette formule de différentes manières et ce de façon aléatoire. Il disait parfois « Rabbana wa lakal hamd » et d'autres fois, il ne prononçait pas le « waw » et il disait seulement « Rabbana lakal hamd ». Et parfois, il ajoutait « Allahumma » devant ces deux formules. C'est-à-dire qu'il disait « Allahumma rabbana wa lakal hamd » ou « Allahumma rabbana lakal hamd ». Et le fait de varier entre ces différentes formules, qui sont toutes légiférées, cela va t'aider à l'humilité et à la concentration dans ta prière. Car si tu prononces ces formules de façon aléatoire, tu vas ainsi être plus concentré et plus attentif à ce que tu dis dans ta prière, incha'Allah ta'ala. C'est pour cela que c'est important de varier entre ces différentes formules, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc en cela une revivification de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mise en pratique de cette science et une aide à la concentration, incha'Allah ta'ala. Et il y a aussi une manière plus complète et meilleure à ce moment-là qui est de dire « Rabbana wa lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alay, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. » Ô notre Seigneur, à toi les louanges, des louanges abondantes, bonne et bénie, pleine de bénédictions, comme notre Seigneur l'aime et l'agrée. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, un homme qui priait derrière lui a prononcé cette formule. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui a prononcé cette parole ?» L'homme a dit « C'est moi, ô messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « J'ai vu un peu plus de 30 anges. » J'ai vu un peu plus de 30 anges se précipiter à qui il écrirait en premier. Ceci nous montre donc le mérite de prononcer cette parole une fois que tu t'es relevé de l'inclinaison. Et ceci est une des invocations légiférées. Et il y en a d'autres que vous pouvez trouver toujours dans le même livre, le livre de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui a détaillé les invocations à prononcer dans les différentes postures de la prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. Et la parole سبحان ربي الأعلى, pureté à mon Seigneur, le Très-Haut, lors de la prosternation. Ceci est donc la cinquième obligation de la prière. Et tout comme l'invocation à prononcer lors de l'inclinaison, Ceci est prouvé par le hadith de Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son inclinaison « Subhana Rabbi al-Azim » et dans sa prosternation « Subhana Rabbi al-A'la » et ce hadith est rapporté par Abu Dawud, al-Tirmidhi et d'autres et il a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Et combien de fois est-il obligatoire de prononcer « Subhana Rabbi al-A'la » lors de la prosternation? Tout comme pour l'inclinaison, l'obligation est de le prononcer au moins une fois. Le plus bas niveau de la perfection est de le prononcer trois fois, et le mieux est de le prononcer plus, proportionnellement à la station debout, comme nous l'avons dit, pour l'inclinaison. Et tout comme pour l'inclinaison, tu peux rajouter après cette formule « wabihamdihi », c'est-à-dire que tu dis « Subhana Rabbi al-A'la wabihamdihi ». Il y a d'autres formules que tu peux prononcer lors de la prosternation, comme « Subhanaka Allahumma wabihamdik » Allahumma ghfirli. Et la sunna lors de la prosternation est qu'une fois que tu as prononcé ces formules légiférées, tu multiplies l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'informe dans ce hadith que lorsque tu es prosterné, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit donc, multipliez donc les invocations. C'est-à-dire que tu demandes tout ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Et lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations de ses serviteurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquez Allah en étant sûr qu'il vous exauce. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer. Et il nous a informé que si nous l'invoquons, il nous exauce. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bienveillance envers ses serviteurs. Il nous ordonne d'accomplir un acte qui est dans notre intérêt. En effet, l'invocation, c'est une chose que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cet acte une adoration par laquelle tu te rapproches de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le simple fait de l'invoquer, tu es récompensé pour cela. Car c'est une adoration que tu dois vouer exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a promis qu'il te répondrait à tes invocations. Ceci fait partie de la bienveillance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de sa grâce immense qu'il a accordée à ses serviteurs. Donc lorsque tu es en prosternation, tu dois multiplier l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui demandant tout ce que tu souhaites parmi les biens de ce bas monde et les biens de l'au-delà. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَقَوْلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ سَجْدَتَيْنَ. Et le fait de dire, رَبِّ اغْفِرْ لِي, ô mon Seigneur, pardonne-moi, entre les deux prosternations. C'est-à-dire, lorsque tu t'assois entre les deux prosternations, tu prononces cette invocation. Et ce, d'après le hadith de Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Et l'obligation, c'est de prononcer au moins une fois cette invocation. Et l'ajout à cela est recommandé. Tout comme il est recommandé de dire plus et meilleur que cela, qui est l'invocation qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini. Warzuqni, mon Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guéris-moi, élève-moi en degré, guide-moi, préserve-moi et accorde-moi ma subsistance. Voyez cette invocation immense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté. Ces invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, il y a un grand bien dans celles-ci. En les mettant en pratique, premièrement, tu obtiendras le mérite du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car tu auras mis en pratique sa sunnah. De plus, ceci va t'aider à la concentration dans ta prière comme on l'a dit. Et en plus de cela, regardez cette invocation immense. Tu vas demander ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur l'invoque, il l'exauce. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de te faire miséricorde, de te guérir, de t'élever en degré, de te guider, de te préserver et de t'accorder ta subsistance. Et ce, à chaque fois que tu t'assois entre les deux prosternations lors de ta prière. Ensuite, il a dit, rahimahullah, والتشهد الأول والجلوس له. Le premier tashahud est le fait de s'asseoir pour celui-ci. C'est-à-dire que si la prière, elle comporte deux tashahud, c'est-à-dire pour les prières, à plus de deux unités. Le premier, c'est une obligation, tout comme l'assise pour celui-ci. Quant au dernier tashahud, dans toutes les prières, le dernier et l'assise pour celui-ci est un pilier. Et les termes du tashahud sont les mêmes que ceux que l'on a vus lors du précédent cours. Il n'y a pas de différence dans les termes du tashahud, que ce soit le premier ou le dernier. Et la preuve que ceci est une obligation est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Lorsque tu t'assois au milieu de la prière, fais-le avec quiétude, puis fais le tashahud. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et la preuve que ce tashahud est une obligation et non pas un pilier de la prière, c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait, il a oublié de faire le premier tashahud. Et il a compensé cela par les deux prosternations de l'oubli à la fin de sa prière. Ceci nous prouve que ce tashahud est une obligation et non pas un pilier, car les piliers ne peuvent en aucun cas être délaissés. Donc la septième obligation de la prière, c'est le premier tashahud, et la huitième, c'est le fait de s'asseoir pour celui-ci. Et une fois que tu as terminé le premier tashahud, il est légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que tu le fais lors du dernier tashahud. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ses obligations, il a terminé son épître en disant « Fal arkan ma saqata minha sahwan ou amdan batulat is-salah bitarkihi wal wajibat ma saqata minha amdan batulat is-salatu bitarkihi wa sahwan جبره السجود للسهو والله أعلم. Il dit, rahimahullah, donc les piliers, ceux qui ne sont pas faits, que ce soit par oubli ou volontairement, leur délaissement rend la prière invalide. Et les obligations, si elles sont délaissées volontairement, alors la prière est invalide, mais si elles sont oubliées, elles peuvent être compensées par les prosternations de distraction, comme on l'a mentionné précédemment. Puis il termine en disant, Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Donc comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, comme son titre l'indique, il n'a mentionné que les conditions, les piliers et les obligations de la prière. Et il y a d'autres actes et d'autres paroles qui sont légiférées dans la prière, mais qui font partie des sunan, des choses qui sont recommandées dans la prière et que l'on aura peut-être l'occasion d'aborder lors de l'étude d'un autre livre plus détaillé, incha'Allah ta'ala. Nous avons donc terminé l'étude de cet ouvrage par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Certes, tout ce que j'ai pu dire de juste, ceci est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui a pu se produire comme erreur ou comme manquement, ne provient que de moi ou du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.